19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour, chers amis auditeurs. C'est un plaisir de vous retrouver, vous le savez. On débute la semaine. On débute la semaine avec beaucoup de chaleur. Prudence à vous, les amis, prudence. Très, très forte chaleur, d'ailleurs. Les températures maximales vont s'élever. Cette semaine, paraît-il, jusqu'à 38 degrés. Bon, eh bien, il va falloir qu'on s'accroche. Je vous invite à boire pas mal d'eau. Mais surtout, n'allez pas vous exposer en pleine chaleur. Ça ne sert à rien, chers amis. Bon, prenez quand même les précautions. Et puis, nous sommes là pour vous accompagner au 01 53 48 3000, si vous voulez des conseils. Allez, c'est parti au sommaire de cette émission. Nous allons revenir sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je le rappelle, qui va reprendre la traditionnelle interview du 14 juillet. C'est tombé tout à l'heure, cet après-midi. C'est officiel, donc il sera le 14 juillet. Vous savez, dans les médias, c'est le retour de l'interview traditionnelle. On va parler donc dans ce sommaire de Macron avec l'enquête parlementaire. Est-ce qu'il va pouvoir tout simplement échapper à cette enquête parlementaire réclamée par l'opposition? Et puis surtout, parlons-nous tout simplement d'un scandale d'État. Est-ce qu'il doit s'expliquer, Emmanuel Macron, sur ce sujet? On viendra évidemment en parler avec nos débattants influenceurs. Autre sujet, Marine Le Pen, qui accuse justement Emmanuel Macron d'avoir acheté son élection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi d'acheter son élection? On va tenter de comprendre. Il l'a acheté avec le « quoi qu'il en coûte » qu'il a mis en place. Bon, eh bien écoutez, chers amis, on va revenir avec un décryptage justement pour en parler. Pouvoir d'achat, inflation, tous les éléments sont dans la zone rouge. Comment sortir de la crise? Et puis surtout, chers amis auditeurs, est-ce qu'il vous arrive de faire des petits boulots pour vous en sortir? Parce que paraît-il que le pouvoir d'achat et l'inflation aujourd'hui, eh bien, de plus en plus d'entre vous, parmi vous, sont contraints d'aller faire des petits boulots, tout simplement, pour boucler les fins de mois. Eh bien, nous vous écouterons tout à l'heure au 01 53 48 3000. 19h30, c'est le billet d'humeur, tout simplement, de Maître Philippe Henri Honegger, qui sera avec nous tout à l'heure à l'antenne. Et puis vous aussi, au 01 53 48 3000. C'est votre numéro, vous nous appelez, vous réagissez face à cette chaleur, cette forte chaleur, le Covid-19, mais également aussi le pouvoir d'achat et les petits boulots pour s'en sortir. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Pas d'invité, mais tout de suite, nous démarrons avec les débatteurs influenceurs qui sont déjà présents et prêts donc à en découdre avec le micro. C'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face, c'est également avec Pierre-Henri. Bonjour, le patron de France Fraternité. Comment ça va, mon cher Pierre-Henri? Pas trop chaud?
Ça va très bien. Non, ça va. C'est confortable.
C'est confortable. Bon. Emmanuel Dupuis, c'est confortable aussi? Le patron
un
de.
Chaud, un peu chaud.
Un peu chaud quand même. Hein. Moi, j'ai souffert, moi, je t'avoue.
Il faut s'y préparer.
Ah, moi, ouais,
les puissants sont bizarres, ces gens qui en été.
Ouais, mais bon, là,
c'est. De la chaleur.
Ouais, mais là, 38. Ouais, mais 38. Clochette. Tu mérites clochette. 38-42, vous la suivez.
Vous êtes bizarre. Il fait 30 degrés, il fait bon. Voilà.
Bon, bah mon corps est moins adapté que celui de Pierre-Henri.
C'est ça, il faut croire, c'est ça,
absolument. Mais bon, on est dans la chaleur humaine du studio, donc c'est bien.
Exactement, dans la chaleur humaine du studio.
À distance.
Climatisé. Hein.
Voilà. À distance.
Ouais,
à
distance. Climatisé. À vos côtés, un jeune journaliste.
Vous savez, à Beurre FM.
Mehdi Jaziri, bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Ça va, bah, j'avais pas chaud en rentrant, mais quand je te vois, Adil, là, avec ta veste, là, je
Bah écoute, figure-toi que comme je suis rentré, j'avais plein la veste, je suis arrivé dans le studio, il faisait froid.
T'as froid là?
Ben j'avais un peu froid, ouais. J'avais un peu froid, donc.
Voilà. Vous voyez, chers auditeurs.
Mais c'est la clim, je l'ai trouvée, elle était.
Mais ça, c'est pour tous les studios.
Elle était chargée, hein. C'était un frigo. Pour une fois, je me plaignais souvent que c'était l'inverse, mais là, c'était un frigo, donc j'ai dû remettre ma veste, vois-tu. Allez, messieurs, tout de suite, nous démarrons avec ce premier sujet. Le premier sujet, sans surprise, c'est, vous savez, cette fameuse affaire de Uber. Emmanuel Macron va-t-il pouvoir échapper tout simplement à l'enquête parlementaire réclamée par l'opposition sur ses liens? Vous savez, on parle des liens avec Uber lorsqu'il était ministre de l'économie et son activité, ça se passait en 2014 jusqu'en 2016. Finalement, plusieurs éléments. Messieurs, que je vous pose, est-ce qu'il doit s'expliquer? Est-ce que c'est un scandale d'État? Et est-ce qu'il doit y avoir une enquête parlementaire ? Emmanuel Dupuis.
Alors, il y a déjà eu une commission parlementaire, il faut le rappeler, ça s'appelle la loi Thévenoud, qui a donné naissance à une réglementation. Donc, ça remonte à octobre 2014. Les faits incriminés, évidemment, étaient antérieurs. Donc, on se souvient du conflit qui avait opposé les taxis au VTC avec, de la part donc, des chauffeurs de taxi, l'idée sur laquelle il y avait une concurrence qui était, leur était défavorable. En tout cas, une adaptation qui n'était pas totalement favorable de nouveau au taxi. Donc, est-ce qu'il faut une enquête parlementaire ? Alors, il faut quand même rappeler que...
Bah, l'opposition, là, la réclame.
Une opposition.
Oui.
La NUPES, pas tous.
Oui.
Et que les faits remontent à l'époque où Emmanuel Macron était non seulement ministre des Finances, 2014-2016, mais où il était aussi secrétaire général adjoint de la présidence. Donc, c'est pas seulement Emmanuel Macron. À ce moment-là, il faudrait qu'il y ait une enquête sur le ministre de l'économie qui a précédé Emmanuel Macron et les...
Sauf que là, pardonnez-moi, mon cher Emmanuel Dupuis, là on dit que c'est peut-être un scandale d'État. François Hollande n'était pas au courant. Le premier ministre de l'époque n'était pas au courant aussi également.
Alors, je ne dis pas qu'il ne faille pas investiguer.
Je vous donne la parole, Pierre-Henri. Je vous vois arriver.
Je dis juste que c'est une affaire qui était connue de beaucoup de monde. D'ailleurs, le dit Thévenoud sur une antenne, donc on ne l'a pas cité ici, dit qu'il n'y a vraiment rien de nouveau, tout le monde le savait. La seule question, c'est qu'à l'époque, quand les faits ont été avérés, donc en 2014, peu étaient ceux qui s'en offusquaient. Donc maintenant, on s'en offusque, je crois, un peu tardivement, à juste titre.
C'est de la récupération politique,
un
disons
peu tardivement.
Ce que c'est.
Et puis, de toute façon, ce qui s'est passé avec cette affaire Uber, s'est passé de la même manière avec l'affaire Alstom. Il n'y a pas eu d'enquête parlementaire, l'affaire Alstom et Siemens. Il n'y a pas eu d'enquête parlementaire. Donc, il faudrait en fait faire une enquête sur le fonctionnement de l'État et la manière dont il privatise ou il externalise un certain nombre de décisions. Il s'agit tout simplement d'un lobbying d'une compagnie étrangère qui a pu bénéficier d'un coup de pouce ou d'une manière un petit peu scandaleuse au sens littéral du terme, scandale d'État, vous l'évoquez, affaire d'État, vous l'évoquez, dans le sens où l'État n'a pas pu diligenter les enquêtes nécessaires. Je rappelle que la répression des fraudes n'avait pas pu enquêter parce qu'il y avait sans doute une pression. Donc si enquête il y a, c'est pourquoi...
Alors faisons un tour de table. Moi j'aimerais vraiment qu'on s'intéresse, parce que là ça fait beaucoup de bruit évidemment, Pierre-Henri et ensuite Médis Jaziri.
Oui, alors autour de cette affaire...
Est-ce qu'il a décidé seul ? C'est vrai.
Non, mais il y a d'abord un terme qui est celui de l'ubérisation de la société et qui est évidemment... pose un problème idéologique. Effectivement, est-ce qu'on est contre les monopoles, pour la libération marché dans des conditions de travail extrêmement précaires ? Ça, c'est un vrai débat. Par contre, l'idée selon laquelle il faudrait rechercher les responsabilités du président de la République, ça c'est une farce, parce que franchement tout le monde est au courant.
Mais oui,
tout le monde est au courant. Il y a des bouquins qui sont sortis.
Les microcosmes parisiens étaient au courant.
Oui. Et puis même ceux qui ont publié quelques bouquins qui ont été vendus à une centaine d'exemplaires. Je pense au bouquin d'Eckert, l'ancien ministre de l'économie, qui consacre un chapitre entier à l'affaire. C'est en 2016. Emmanuel Dupuis a cité tout à l'heure Thévenoud. Oui, oui, effectivement. Il dit lui-même, il n'y a rien de très nouveau. Puis ensuite, il y a un certain nombre de parlementaires qui ont sorti leurs échanges à l'époque avec certains qui ont porté des amendements de la société Uber.
Oui.
Et moi, c'est ça qui me préoccupe.
Oui.
C'est plutôt de savoir comment on fait pour lutter contre les lobbies qui ont une véritable action, et dans tous les domaines, sur les parlementaires qui ont une influence sur les lois. Donc, à partir de ce moment-là, quels sont les éléments de transparence que nous sommes en droit
de tirer. On a quand même des révélations sur le deal secret entre Macron de, évidemment, à l'époque, ministre de l'économie.
Lutte contre un monopole à l'époque. Et fasse en sorte que arrive une nouvelle société, crée un certain nombre d'emplois dans notamment les banlieues, et puis par ailleurs répondre à un service qui a été plébiscité par la population, je vois pas vraiment où est le sujet. Par contre, je le vois sur l'influence des lobbies au sein de l'Assemblée nationale. Oui. Et alors là, pour le coup, ça va un peu plus loin que Uber, et c'est assez grave. Et là, moi, je suis partisan d'une plus grande transparence et d'un plus grand contrôle.
Bon, c'est un autre sujet, mais on reviendra évidemment sur la, la question c'est des lobbyistes et le travail des lobbyistes. Mehdi Jaziri.
Moi, je vais rejoindre monsieur. En fait, je pense que le problème de, d'Uber...
Lequel des deux?
Monsieur...
Pierre-Henri,
voilà.
Pierre-Henri, Mehdi. Voilà.
Je ne m'en offusque pas.
Ouais, je vous rejoins aussi. On se rejoint tous, il n'y a pas de souci. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que déjà, premièrement, par rapport à l'histoire d'Emmanuel Macron, enfin, je veux dire, c'était sûr et certain qu'il allait y avoir une histoire qui allait tomber après ce qui s'est passé avec l'Assemblée nationale, etc. Les gros conflits qu'on a, c'est des conflits d'intérêts en vérité. L'affaire d'Uber, en vérité, bah, tout le monde le savait. Et puis, en vérité, contrairement à tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, etc., c'est pas trop grave finalement, comparé à tout ce qui se passe. Bien évidemment, je mets le petit astérix à côté. La vraie histoire, c'est que là, la NUP est clairement en train de profiter de tous les petits moments de faiblesse de l'État pour essayer de les attaquer. C'est juste ça. En vérité, l'histoire d'Emmanuel Macron, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, on sait tous très bien qu'Emmanuel Macron a favorisé les entreprises américaines et les grands groupes américains depuis longtemps. Enfin, ça, c'est pas une légende. Tout le monde le sait. On parle d'Uber, mais on peut parler de tous les grands groupes américains. Enfin, je veux dire, parlons d'Amazon pendant le Covid. Voilà. Mais personne lui a rien fait. Personne se s'en foutait. Et c'est que maintenant, on se réveille, on dit ah, mais tiens, Monsieur Macron, il abuse.
Dans la France, hein.
Ouais. Enfin, je veux dire.
Alors, allons interroger le rôle.
Est-ce qu'il doit s'expliquer? Est-ce qu'il doit s'expliquer?
Mais il le fera au détour, sans doute, de l'interview.
Du 14 juillet.
Du 14 juillet.
Avec laquelle il a renoué, d'ailleurs.
Je suis pas sûr.
On verra. On verra en termes de communication. Vaut mieux qu'il dise quelques mots.
Il le fera dans la rue. Il fera une petite rencontre. Voilà, c'est un truc qu'il va faire rapidement. Les enquêtes, enfin, pas besoin d'enquête pour ça, il n'y aura pas d'enquête là-dessus. Et même McKinsey, il y a eu des enquêtes encore.
Ça va, il y a 126 000.
C'est une grosse affaire, mais là, c'est pas une grosse affaire.
126 000, comment, mail, SMS et autres. Qu'est-ce qu'il y a à lui reprocher? Rien. Rien. Idéologiquement, effectivement, on peut discuter de l'ubérisation, la société, de sa position.
Mais là, ça devient le gros problème.
Idéologique. Voilà. Oui, sur son libéralisme. Oui, on peut discuter de ça.
Américain.
Américain.
On dit ce qui est, c'est un mondialiste.
Emmanuel Dupuis.
C'est le top des mondialistes, Emmanuel Macron.
D'autant qu'Emmanuel Macron ne fait qu'appliquer ce qui était inscrit et proposé par la commission Attali auquel il appartenait. Donc cette libéralisation, dont on ne peut pas lui reprocher à lui, il faudrait peut-être reprocher à Attali cette ubérisation.
Oui. Bon.
Moi je crois, comme l'a dit Pierre-Henri, que la question du lobbying auprès des parlementaires est une question déterminante.
Oui.
Le Parlement européen, d'ailleurs, est allé beaucoup plus loin que les parlements nationaux, puisqu'il y a un livre vert sur la transparence, qui date de 2006, dans lequel les lobbies sont obligés de s'inscrire avec un code de bonne moralité, de déontologie, si on puisse s'exprimer ainsi.
Ce qui est une bonne blague.
Il y a des choses qu'ils peuvent faire et des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Le problème, c'est qu'en France, aucun des deux parlements, l'Assemblée nationale comme le Sénat, n'a voulu légiférer. Et donc, vous avez des bruits de couloir, des visiteurs du soir qui viennent avec des amendements clés en main, je puis dire que j'en connais, qui effectivement ont rédigé des amendements que l'on retrouve dans les propositions de loi ou même dans les projets de loi gouvernementaux.
Des lobbyistes.
Bah oui, des groupes d'influence ou des lobbyistes.
On a des écoles de lobbying aux États-Unis.
Tant qu'on n'aura pas réglé
cette question. Aux États-Unis, c'est normal.
Bah, aux États-Unis, on a des écoles de lobbying.
Aux États-Unis, non mais aux États-Unis, c'est normal, mais en même temps, c'est beaucoup plus réglementé qu'en France.
Oui.
Vous ne pouvez pas rentrer au Congrès si vous n'êtes pas accrédité. Alors qu'au Parlement, comme il n'y a pas besoin d'accréditation, tout le monde peut influencer tout le monde. Et c'est ça le vrai scandale d'État.
Ouais.
Parce que c'est celui qui est le plus riche et le plus fort qui influence in fine.
J'ajoute la grande montée d'Emmanuel
Macron. Donc l'opposition qui s'offusque, on laisse passer.
Oui, et puis j'ajoute, j'ajoute dans la... j'ajoute...
C'est un moment salvateur dans lequel... Pardon,
Après Emmanuel Dupuis, j'ajoute un élément. Moi, je suis allé très souvent à l'Assemblée nationale. J'y vais encore. Je rencontre un certain nombre de parlementaires sur les questions qui m'intéressent. Et notamment sur les questions migratoires.
Vous le faites régulièrement.
Il m'arrive de porter un certain nombre d'amendements...
De doléances.
De doléances et d'amendements.
Et d'amendements.
Même de rédiger.
Ah, de rédiger.
De rédiger. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que en tant que dirigeant d'association, je suis obligé de faire une déclaration comme quoi j'ai rencontré un certain nombre de parlementaires, mais alors que je suis président d'association, et derrière il n'y a évidemment aucun contrôle, et pourtant je n'ai rien à voir avec par exemple le lobby du vignoble. Hein, qui sont très présents en termes de santé publique.
Mais vous le faites, c'est pour faire porter vos intérêts ?
Mais pour défendre, évidemment, la cause et les causes que je crois.
Et là, on parle dans le cas d'une association. Les lobbies économiques sont dangereux. Les lobbies LGBT, le lobby féministe, on parle de ça aussi. Enfin, il y a des lobbies dans tout. Donc ça veut dire que les intérêts de tout le monde, c'est-à-dire que n'importe qui rentre à l'Assemblée nationale, ils veulent quelque chose. C'est facile, ils rentrent comme chez leur mère.
Oui, alors justement, ce qui est sidérant, c'est qu'il n'y ait pas de différence entre des lobbies qui ont un but commercial, voire même qui ajoutent un petit billet pour que l'amendement soit passé, et des gens comme Pierre ou moi. Hein, j'ose le dire à cette antenne, moi-même, j'ai fait ça aussi. J'ai tenté d'influencer les parlementaires dans le sens qui me semblait être le mieux-disant.
Mais le sujet qui vous concerne.
Mais qui concerne la société. Mais là, on parle d'autre chose.
Mais gratuitement.
Là, on parle d'autre chose. On parle d'Uber qui aurait...
Un échange de bons procédés, peut-être.
Adil, non, on ne parle pas de ça. On parle d'Uber, la société Uber, qui a soudoyé les parlementaires en leur donnant de l'argent pour faire passer un certain nombre de choses qui les arrangeaient fiscalement.
Bien sûr.
Donc ça, c'est un scandale. Oui. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui est responsable. Il y a les parlementaires aussi qui ont porté les amendements.
Et puis allons voir, par exemple, ce qui se passe dans un autre pays européen, aux Pays-Bas, qui ont favorisé d'une manière absolument incroyable non seulement l'implantation d'Uber, mais aussi sa protection devant la fiscalité que certains pays voulaient lui imposer.
Allez messieurs, le débat continue justement, 0153483000, je vais solliciter nos auditeurs aussi s'ils veulent réagir. Est-ce qu'ils trouvent que c'est un scandale d'État, cette histoire évidemment concernant Emmanuel Macron, le chef de l'État et Uber, à l'époque lorsqu'il était ministre de l'économie. 0153483000, partout en France, vous nous appelez. Vous nous parlez aussi de ces fortes chaleurs, vous pouvez aussi nous en parler. Comment vous vous organisez, y compris avec vos enfants, ou puis vous aussi tout simplement, pour cette semaine qui est très attendue, jusqu'à entre 38 et 42 degrés on parle. Allez, on marque cette première pause musicale, pub, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h24, bienvenue si vous venez de le retrouver, c'est Pierre-Henri qui est avec nous, le patron de France Fraternité, Emmanuel Dupuis, le président de l'Institut Lipse, notre jeune journaliste Mehdi Jaziri, vous aussi 0153483000, nous allons parler de ce second sujet. Je vous attends d'ailleurs pour parler de l'inflation et puis vous savez quoi, des petits boulots pour s'en sortir. Est-ce que vous trouvez que c'est une solution aussi pour sortir de l'inflation et du pouvoir d'achat? Est-ce que c'est une des solutions qu'on peut faire, qu'on peut pratiquer, des petits boulots pour s'en sortir? Messieurs, Emmanuel Macron a acheté son élection, paraît-il, selon... C'est Marine Le Pen qui l'estime, hein, bien sûr. Elle dit, il a surfé sur le quoi qu'il en coûte. Emmanuel Dupuis.
Ouais, bon.
Et ça marche, vous savez.
C'est de bonne guerre de dire ça. Elle pourrait d'ailleurs rajouter, mais elle ne l'a pas fait, mais c'est Gabriel Attal qui dit que maintenant on passe du combien ça coûte, ou de quoi qu'il en
c'est
coûte.
C'est Gabriel Attal, effectivement, donc, récemment, la week-end d'ailleurs.
Bon, on est dans les punchlines là, hein, c'est la politique spectacle.
Les punchlines, j'aime bien. Ça mérite une clochette, ça.
On est quand même.
Une punchline. Emmanuel Dupuis, c'est rare qu'il dise ça.
Clochette. On est en train de se rendre compte, effectivement, que les oppositions sont en train de s'inventer des postures. J'ai dit les oppositions, hein, non pas l'opposition.
Les oppositions, ouais.
Chacun dans son rôle, des motions de censure, une volonté de ne pas s'associer à la motion de censure, une rhétorique qui revient à l'élection présidentielle, une façon de dire que le nombre de parlementaires fait de soi une force politique majeure, ou le fait de ne pas avoir beaucoup de parlementaires, mais le fait d'être à la charnière, les Républicains font aussi leur force. Donc on est dans une logique où chacun essaye de se jauger, essaye de trouver sa place. Moi je retiens, au-delà des phrases, qu'il y a une volonté sans doute de la part des Français de comprendre enfin le rôle du Parlement. et que l'opposition se fera au Parlement.
Vous avez cité Gabriel Attal tout à l'heure, vous avez dit qu'on est passé du quoi qu'il en coûte à combien ça coûte. Permettez-moi de vous dire que Marine Le Pen a dit quand même, a fait cette déclaration, Emmanuel Macron a acheté son élection par le quoi qu'il en coûte, et aujourd'hui il dit maintenant que je suis élu, on va couper les robinets, a jugé donc Marine Le Pen.
Je crois ne pas avoir dit le contraire. Marine Le Pen revient sur l'élection présidentielle en rappelant le contexte d'un président qui a fait de la politique pour se faire élire. Mmh. Après tout, c'est son droit. Les Français savaient très pertinemment, ou en tout cas, ça advient tous les 5 ans, pour l'élection présidentielle tout au moins, pour l'élection législative aussi, mais de manière décalée, que chacun y va de son petit geste. Et que, après tout, la politique est faite de petites attentions pour les électeurs qui ensuite s'en trouvent un peu maris une fois qu'on est arrivé au pouvoir. Il n'y a rien de nouveau à cela. Que le président Emmanuel Macron ait acheté son élection en faisant des promesses aux Français et qu'ensuite il n'applique pas son programme, c'est un peu.
On va couper les robinets.
C'est un peu l'histoire.
Elle fait référence aussi à la ristourne.
C'est un peu l'histoire de son précédent mandat.
Mais dis, Jésus,
il n'a pas tout à fait dit ou fait ce qu'il avait dit. Il n'y a rien de choquant.
Bon, mais dis, Jésus, rien de choquant aussi.
En fait, elle a la même posture qu'elle avait pendant la présidentielle. C'est-à-dire la Marine Le Pen plus sociale que, entre guillemets, excusez-moi, c'est l'étiquette qu'on lui a mis facho, comme on lui a mis de son père. Non, là, elle essaie d'avoir cette posture un peu sociale. Elle essaie de faire la Mélenchon, un peu aussi sur ce coup-là, quand elle parle des robinets. Il me semble, après, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle fait référence aussi à la ristourne du coup des
carburants.
Voilà. 18 centimes.
18 centimes à la pompe.
Voilà, oui. Et donc. voilà.
18 centimes au litre. Hein.
C'est ça. Mesure structurelle. Voilà. Elle parle de ça.
Oui. Donc, elle attaque Emmanuel Macron sur un truc qui était prévisible. Elle savait très bien que ça allait se passer. Voilà, c'est de la politique, c'est du petit jeu.
Sauf que ça concerne les Français dans leur quotidien, ça, les amis.
Bien sûr.
Moi, je les ai entendus, les auditeurs. Ils ont défilé ici toute la semaine dernière.
C'est la réalité du pays aujourd'hui. C'était la même chose pour la présidentielle.
Parfois.
On a toutes les guerres de politique en haut, sauf que les vrais problèmes du peuple, finalement, on les entend pas, on s'en fiche. En fait, c'est les petits privilégiés qui vont se battre en haut, et le peuple, il se bat en bas.
Est-ce que Marine Le Pen va acheter son électorat lorsqu'elle va voter la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent la loi sur le pouvoir d'achat? 20 milliards d'euros, parce qu'elle va la voter, elle va même en rajouter, elle va trouver que l'augmentation de 4% des retraites, c'est pas assez, elle va trouver que l'augmentation des minima sociaux, c'est pas assez, que... évidemment, en réalité, elle est d'une médiocrité totale, et j'ai envie de dire que c'est pas... Hélas, c'est pas simplement elle, c'est le spectacle politique qui est aujourd'hui.
Ah, là, je vous rejoins. Là, je vous rejoins.
Parce que on ne discute pas véritablement du fond du problème. Enfin, le quoi qu'il en coûte pendant le Covid, qui est-ce qui était contre? Certainement pas Marine Le Pen, certainement pas les petits commerçants qui ont bénéficié des aides du gouvernement. Faut être sérieux au bout d'un moment. Donc,
on est sérieux tout le temps, en permanence.
C'est saillie de l'extrême droite, non de vie que la journée. Voilà, c'est fait pour ça, pour faire du buzz sur la journée. Après, les Français, ce qui les intéresse, c'est de savoir effectivement comment on va faire pour lutter contre l'inflation, contre la hausse de la vie, du pain qui se constate tous les jours, hein, dans le quotidien. Voilà, c'est vrai que si vous allez...
C'est ça le concret des quotidiens. On va en parler quand on va parler du sujet
Ils vont voter une loi sur le pouvoir d'achat, et Marine Le Pen la votera, elle fera même de la surenchère. Et donc on pourra lui dire « Ouais, vous achetez votre électorat ». C'est stupide.
Bon. C'est stupide ou c'est cynique?
Mais les deux, mon capitaine.
Non, mais c'est surtout populiste.
Emmanuel.
C'est surtout populiste.
Ouais, c'est vrai, c'est populiste. Oui.
L'idée sur laquelle les responsables politiques...
Donc Macron fait du populisme aussi.
Mais tout le monde fait du populisme. Quand vous faites de la politique, c'est des promesses. Parfois des fausses promesses. Après, c'est à la sagacité, à l'intelligence des citoyens de se rendre compte si, oui ou non, ils ont été floués.
On fait des fausses promesses et tout le monde tombe dans le panneau.
Mais quelle fausse promesse?
Bah, je sais pas, Emmanuel Dupuy me dit qu'on fait des fausses. Bah, les politiques en général passent leur temps à faire des fausses promesses. Attendez, moi, j'essaie. Je veux cadrer le maximum.
Je vais préciser parce que d'un seul coup. Il est quand même pas anti-parlementariste, Emmanuel Dupuy.
Peut-être qu'il a pu sombrer dans le complotisme, c'est possible,
non? Je ne sais pas, ou alors qu'est-ce qui lui est arrivé?
Attendez, laissez-le, peut-être qu'il a découvert des choses. Une lumière subite.
Si on regarde. C'est la chaleur, Emmanuel.
Sans doute.
Non, mais laissez-le, il va nous expliquer.
Je vais me refroidir. Si on reprend clairement cette histoire des 18 centimes, dès le début, il avait été dit que ce serait une mesure temporaire. Comment peut-on faire passer l'idée que le gouvernement a la capacité, sur une période longue, de payer 18 centimes sur un prix du gaz et du pétrole exponentiel. À un moment ou à un autre, c'est un petit peu à l'intelligence des uns et des autres.
Donc, c'est des fausses promesses.
Il n'a jamais fait de fausses promesses.
Ce ne sont pas des fausses promesses.
C'est vous qui l'avez dit, Emmanuel Macron, Emmanuel Dupuy.
Écoutez-moi.
Vous m'avez dit, les politiques passent leur temps à faire des fausses promesses.
Il a fait une fausse promesse dans le sens où...
Les deux Emmanuels vont en bateau.
L'idée...
Il y en a un qui va tomber à l'eau.
L'idée... Bon, certainement pas moi, parce qu'on n'est pas dans le même bateau avec le président. L'idée sur laquelle ce serait permanent est une fausse promesse. Voilà. Que les Français aient cru... Que ce soit quelque chose.
Donc, on tombe tous dans le panneau.
Bah, s'il y a une certaine. Moi, j'ai pas.
Je vais solliciter. Attendez, standard. 01-53-48-3000. Est-ce que vous croyez vous passez votre vie à croire, évidemment, ce que disent les politiques ou pas?
Les politiques, qu'est-ce qu'ils font?
Est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Dupuy que c'est en permanence que des fausses promesses? Bah, si, moi, c'est du direct.
Est-ce que les responsables politiques.
C'est tout.
Est-ce que vous. Que les Français font référence ou.
Trop technique.
S'applique à voter pour un responsable politique.
Trop technique déjà, vous voulez embrouille totale.
Mais non, mais sinon, mais là vous faites du populisme. Vous faites du populisme médiatique.
On fait de la radio, on fait du populaire, pas du populisme. C'est pas la même chose.
Est-ce que le choix d'un électeur.
Le populaire, oui, il a sa place. Le populisme, non. On laisse ça à certains.
Le choix d'un électeur se fait sur une promesse d'un candidat ou sur un programme. Voilà, ça c'est une bonne question.
Bah écoutez.
Bon, quoi qu'il en coûte à la pompe, ça revient cher.
Bon, on est à 2,5.
Non, mais c'est intéressant ce que dit Emmanuel Dupuy, parce que cette histoire de fausse, tous les politiques passent leur temps à faire des fausses promesses.
Non.
Des promesses.
Moi, je ne dirais jamais cela.
Non, mais c'est plutôt des promesses non tenables, surtout. Enfin, je veux dire, écoutez-moi, mes promesses.
Attendez. Pierre-Henri.
On répond à un certain nombre de problèmes, y compris psychologiques. Écoutez, quand le litre d'essence est passé au-delà du 1,50€, enfin, je vous rappelle que 2 ans auparavant, ou 3 ans auparavant, ça avait donné la crise des gilets jaunes, hein, l'augmentation du prix de l'essence, du gasoil, etc. Et là, on passe à 1€, au-delà d'un euro 50, choc psychologique, on est à 1,80, on est à 1,80, bon, le gouvernement
on
est
pas à 80,
dit,
là.
Non mais attendez, je reprends l'histoire.
Ah oui, vous reprenez l'histoire.
Je reprends l'histoire. Et là, le gouvernement dit, on va faire quelque chose, on va faire une aide. Et puis, ça continue, on est à 2,10€, 2,20€, ça dépend où tu vas. Si tu vas
j'avais des auditeurs la semaine dernière qui mettaient 100€ par semaine.
Emmanuel. 2-3.
Ouais, ouais. Oui, mais parce qu'il va dans les stations les plus chères. Voilà. Moi, je vais chez Leclerc. Moi, je vais chez le populaire. Donc, le populaire, on est à 2,10. Oui. Voilà.
Et chez Total, on est à 2,30.
Voilà. Et chez Total, on est à 2,30. Mais Emmanuel aime bien Total. les firmes multinationales. Et donc, voilà, on est dans une autre situation. Bruno Le Maire a annoncé que, évidemment, ça serait en sifflet. L'aide, et qu'à un moment donné...
On parle de 300€. Dès octobre.
Alors, la vraie question, c'est comment on fait pour faire revenir le prix du pétrole à un taux acceptable. Évidemment, une des clés se trouve du côté de l'Ukraine.
Oui. Mais Dijaziri, qu'on n'a pas entendu, effectivement.
Ouais. Et de la Russie, surtout.
Et de la Russie, oui. Tout à fait, oui.
En fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de croire que l'argent tombe du ciel. Typiquement quand...
Mais c'est les contribuables qui vont payer.
Non, mais quand Emmanuel Dupuy parlait des promesses, moi je comprends ce qu'il dit. Les promesses, il y a des promesses. Enfin, typiquement le problème de Mélenchon, tout le monde y croit, enfin tous les partisans de Mélenchon y croyaient. Mais
il fait du populisme.
Voilà, mais il n'est pas finançable. Dans le sens où, si on regarde...
Vous dites ça. Mais non, mais les 200 fameux 200 économistes, ils disent, il est finançable.
Ah mais attendez, non mais je veux dire, non mais regardons concrètement.
Bah, 200 c'est pas rien les amis, on parle pas de 20 ou 10 hein.
Mais il faut qu'on tape dans la dette au bout d'un moment. Non mais faut être réaliste. En fait, chaque programme a ses limites, c'est ça qu'il faut comprendre. Chaque programme a ses limites. Donc dans ces, bien évidemment que le politicien va pas vous dire bon bah mon programme il a des petits problèmes. Non, le politicien il va être là toujours fier, il va annoncer ses idées et c'est pareil pour le carburant. Quand on a annoncé le carburant, Emmanuel Macron, enfin c'était pas Emmanuel Macron qui avait annoncé, c'était Jean Castex je crois qui avait annoncé l'aide. Non, je me trompe. Je dis n'importe quoi.
Déjà un ancien Jean Castex.
Voilà, oui.
Hein,
bah à l'époque, c'était Castex. Oui, c'était Castex.
Voilà. Vous parlez de l'époque. Qui venait, et vous parlez d'il y a six mois.
Oui, non mais.
C'est extraordinaire.
Castex, il venait tout fier. Il disait, voilà, on va vous aider, etc. Il a annoncé ça un peu comme la venue du Messie. Donc, forcément, les Français se sont dit, ah, génial, pendant la guerre, on est tranquille. Sauf que la vérité, c'était pas ça. Donc là, on tombe encore une fois. Là, il y a la politique, il y a la réalité. Quand les deux s'entrechoquent, ça fait mal et c'est les Français qui ont mal. Voilà.
Donc, finalement, Emmanuel Dupuy, il a raison. C'est ça?
Bon.
Bon.
Sur quelques points.
Bon, bah écoutez messieurs, et nous allons marquer cette
partiellement raison.
Partiellement raison. Voilà. 0153483000, on vous attend pour parler de pouvoir d'achat, on parle d'inflation, on parle de ces petits boulots pour s'en sortir, mesdames et messieurs. L'inflation, quelles sont les mesures pour la contrer? Nous allons en parler tout de suite après la pub. À tout de suite, 0153483000, je vous attends.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Dispositif estival, bien sûr, évidemment, 19h43, Emmanuel Dupuy, Pierre-Henri, Mehdi Jaziri, 0153483000. Tiens, messieurs, nous allons parler de pouvoir d'achat. C'est parti. Comment, quand on parle d'inflation, ça va être un sujet d'actualité, vous le savez, en permanence, comment sortir de cette crise, parce qu'elle va prendre de l'ampleur, mais surtout, le casse-tête, les amis, ce véritable casse-tête de la lutte pour le pouvoir d'achat, en pleine période d'inflation, que faut-il faire? Est-ce que finalement la solution n'est pas celle des petits boulots en plus? Pierre-Henri. Pour s'en sortir. Parce que là, c'est la cata, les amis. La cata. 0153483000, d'ailleurs, les auditeurs peuvent témoigner.
Il y a un certain nombre de Français qui, je pense notamment aux 9 millions qui sont. Qui vivent au seuil de pauvreté, mais je pense aussi aux gens qui sont au SMIC.
La classe, on parle même de ceux qui sont modestes, hein.
Oui,
classe moyenne.
Mais je pense déjà à ceux-là qui effectivement ont de grandes difficultés pour boucler les fins de mois, et donc qui parfois sont obligés de trouver des jobs d'appoint. Pour pouvoir, quand c'est possible et quand ils existent, pouvoir finir.
Donc, pour compenser la perte, il faut faire des petits boulots.
Travailler plus pour gagner plus.
Un complément de revenu, vous voulez dire?
Oui, mais là, je le dis à la fois en termes de provocation, je ne devrais pas le dire, mais manifestement, pour un certain nombre de gens, il n'y a pas d'autre solution pour s'en sortir.
Donc, ça veut dire qu'il faut faire deux boulots.
Parce que sinon, c'est extrêmement compliqué. Il faut écouter les témoignages de nos compatriotes. Il faut écouter les témoignages de nos compatriotes qui ont beaucoup de mal, pour certains, à terminer. Je pense aussi aux étudiants qui sont dans des difficultés extrêmes.
Bah, qui gagnent 300, 400 euros par mois, pas plus, hein, les étudiants.
Oui, alors, normalement, les stages, hein, je rappelle, c'est 600 balles. Hein, et c'est obligatoire.
Sur une période de 3 mois,
Sauf que les loyers sont...
Le paiement est obligatoire.
Le paiement est obligatoire.
Ouais. Tiens, Emmanuel Dupuy, comment on fait pour s'en sortir? Oui, c'est vrai. On fait deux boulots, on fait trois boulots.
Non, mais sinon, c'est attendez.
Non, mais c'est attendez. Mais comme dit Pierre-Henri, il a raison. C'est que de plus en plus, pour contrer le pouvoir d'achat, nous sommes obligés de faire des petits boulots pour s'en sortir.
Bon, déjà, il faut...
Pourquoi vous dites ça? C'est vrai.
Mais je suis d'accord. C'est
la réalité.
Il faut avoir à l'esprit que c'est pas qu'en France, hein. Je rappelle qu'en Allemagne, on est dans une situation tout aussi catastrophique. D'ailleurs, ça a des conséquences Et évidemment sur.
Pourtant le pays qui connaît le moins de chômage. Hein.
Oui, mais
qui a connu le moins de chômage.
C'est pas le problème.
Mais avec la nature de l'emploi, ils sont les regardés.
La volatilité de l'emploi est plus forte qu'en France. Le prix du pétrole est tout aussi élevé qu'en France.
Oui.
D'ailleurs, il est peut-être plus élevé parce que l'Allemagne est plus dépendante de la Russie sur son pétrole, son gaz et son charbon. Et donc du coup, la situation, elle est vu.
Tu vois le lobby pro-nucléaire qui est juste derrière.
D'une certaine façon, je vous rappelle que l'énergie nucléaire, 77% de notre énergie, c'est l'énergie la moins chère d'Europe. Parce que nous avons 56 réacteurs. Parce que nous avons investi, ou que nous allons investir, les 56 milliards que le président Emmanuel Macron a proposé sur les EPR. Mais évidemment que la situation est dramatique. Je vais même enfoncer un clou. Elle sera encore plus dramatique.
En septembre.
À partir de septembre. Et sur un
très dramatique.
Bah forcément, l'impact.
Merci de nous inquiéter, c'est bien. Au moins, on va se préparer comme ça.
Je pense que tous les Français ont conscience quand même.
Je suis pas sûr. Non.
Je termine.
Non, très honnêtement, je suis. Ils ont conscience de la crise. Mais le fait que ça soit de pire en pire
va avoir des impacts. Comment ne peut
vous venez de nous dire Emmanuel Dupuy que ça va être de pire en pire dès la rentrée. Je pense qu'ils n'ont pas pris conscience encore.
Mais non.
Il y a les vacances, là, vous voyez, on va profiter.
C'est le catastrophisme habituel.
Pas du tout.
Il n'a jamais été dans ce.
J'étais mon propos. On se plaint du fait que l'essence soit à 2,1, 2,3. Si, il n'y a plus de pétrole.
Il y a bien un ministre qui va nous dire qu'il faut y aller en vélo.
Il y a déjà des précédents qui nous l'ont dit. J'ai même entendu un ministre de l'économie ce week-end à l'occasion de la réunion des cercles des économistes nous dire qu'il faudrait réduire.
Dans votre fameux colloque.
Non, ça c'était le cercle des économistes de Jean-Hervé Lorenzi à Aix-en-Provence, qui est la grande messe, si vous voulez, du libéralisme, macroéconomique.
Macroéconomique. Vous avez tous les spécialistes.
Où il y avait la première ministre et plusieurs anciens premiers ministres, dont Édouard Philippe, dont Jean-Pierre Raffarin.
Et beaucoup de
Il a été question, effectivement,
plein d'autres.
Du fait que l'État devrait montrer l'exemple et que dans les entreprises publiques, il n'y ait plus d'eau chaude, mais que de l'eau froide, que l'on réduise de 3 degrés le chauffage des services publics. Donc on est un peu
vers quel monde, là?
Ben, c'est un monde qu'on appelle la démondialisation.
Ce
n'est pas de l'utopie.
Il a raison, Pierre, il y a le catastrophisme.
Je rappelle que ce n'est pas moi qui le dis, mais le ministre.
Plus le Covid, plus le.
Le ministre des Finances.
Non, mais là, vous contredisez tout seul. Il y a.
Mais
il y a 10 minutes, vous avez dit que les politiques font des mensonges, qu'ils font des belles promesses. Et là, vous me dites quelque chose.
On ne parle pas de promesses, on parle d'un ministre qui dit que l'État va lui-même se réduire sa capacité de production.
Ça fait combien d'années qu'on dit ça?
Ah non, mais attendez.
C'est la première fois
que l'État dit qu'on va revenir. Et je rappelle aussi qu'il faut aussi que les Français s'attendent à ce qu'il y ait moins de trains.
Merci de faire peur.
La charge électrique en France va être réduite. Un discours de réalisme. S'il n'y a plus de pétrole.
Mais il y en a encore.
Oui.
Et on va le chercher où?
Il y a du stock. Il y a du stock. Un stock qui va nous faire tenir sur 2 ans, paraît-il. Sauf si vous racontez des salades.
On va chercher où le pétrole?
Un stock pour 2 ans, cher Emmanuel.
Mais
c'est pas moi qui le dis.
Tu interviens beaucoup sur les questions de défense et avec la relation avec la Russie. Il faut tout de même espérer qu'à un moment donné, on sorte de cette difficulté.
Discours alarmiste quand même.
Et qu'on cesse de se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Autrement dit, qu'il y ait un compromis.
Même s'il y a un compromis, la Russie ne réouvrira. Russie ne réouvrira pas les vannes, même si on trouve une solution à l'Ukraine. Il faut que vous ayez ça en tête. Il y a une rupture.
Il y a cette rupture. Elle est partie pour durer. On ne l'a pas entendu.
Il faut qu'on trouve une solution à la crise en Ukraine. Son propos. Mais ça ne réglera rien du tout.
Je vais finir sur le débat des deux messieurs.
On ne l'a pas entendu, s'il vous plaît.
L'essence, etc., le pétrole, si on ne le trouve pas en Russie,
il n'y a pas que l'essence, il y a le supermarché.
On va essayer de le trouver. trouver ailleurs. On va se débrouiller. On va. Non, mais faut arrêter. Non, mais à quel prix, d'accord. Mais
la rationalité économique, vous y réfléchissez.
Non, mais d'accord. Mais je veux dire, on va pas. Mais on va pas retourner au Moyen Âge. Je veux dire.
Bah c'est en discussion. Il y a des tractations qui sont faites avec le Qatar, notamment.
Oui, voilà, mais voilà.
Le Qatar.
Oui, mais les prix vont être, bien évidemment que les prix vont être plus élevés, mais c'est le prix à payer de cette guerre.
Sauf que le Qatar.
C'est le prix à payer de cette guerre.
On n'a pas suffisamment de stock.
Mais je vous. Tu as rappelé toi-même.
On va pas rester sans essence.
Dépendant des sources d'approvisionnement. Oui. Pétrolière.
Le gaz russe pour nous, c'est 17%.
Voilà, oui. C'est 17%. Et,
pas cher,
y compris, nous discutons avec l'Algérie pour avoir une alternative.
Oui, enfin,
et par ailleurs, le nucléaire nous permet, le nucléaire nous permet de faire face à un certain nombre de situations. Donc, oui, la situation, elle est difficile, mais elle n'est pas tragique. Et donc, collectivement, on va s'en sortir. Moi, vous savez, j'en ai un petit peu assez de ces Français qui trouvent que finalement la France est dans une situation catastrophique.
Mais il faut le dire, plaignent, pourquoi avoir
du matin, se plaignent du matin au soir, alors que quand même, dès que on se compare. Ça va plutôt
et,
bien.
Et j'aimerais plutôt juste ajouter un mot, Adil. Ajouter un mot.
Mais dis juste rapidement, et ensuite
très rapidement, promis. Les Français aussi, il faut qu'ils disent un truc, c'est que là, vous avez raison. Là, cette année qui va arriver, ça va être pire. Ça va pas être catastrophique, ça va pas être terrible, ça va être pire. Je peux pas employer des mots comme ça. En revanche, il faut pas oublier que l'État ne va forcément pas abandonner son peuple et qu'on a ensuite des associations. Ça aussi, il faut le rappeler. C'est quelque chose d'essentiel à rappeler, mais on le rappelle plus, on n'en parle plus. Il y a des associations qui vont être sur le terrain, qui vont vous accompagner, qui vont vous aider. N'ayez pas honte d'aller les voir.
Voilà. C'est déjà le cas.
Non, mais ça va être déployé encore plus. Oui, non, mais ça va être déployé encore plus.
Bah, sauf que vous inquiétez pas. Sauf ce que vous dites, c'est inquiétant. Parce que ça veut dire que ça.
Bah, non, mais je veux dire, en fonction de la situation, ça s'adapte à la réalité.
On
s'adapte à la réalité.
Dans la misère.
On s'adapte à la réalité.
Emmanuel. Rapidement.
Qui fait du catastrophisme. Parce que
là, oui, c'est la fin de tout.
Excusez-moi, pendant le Covid, qu'est-ce qui s'était passé?
Ben c'est ça.
Ben voilà.
Si, Emmanuel, vite, je dois rendre l'antenne.
Si les associations viennent pallier à ce que ne fait plus l'État, on est vraiment dans une situation catastrophique.
Ben c'était le cas en plein
ça
Covid.
Fait des années que c'est le cas.
Oui, alors juste.
Mais en plein Covid, c'était ça, Emmanuel.
Je rappelle quand même que la crise dont nous parlons est de nature différente. Là, je vous parle de la crise énergétique.
Allez, je rends l'antenne.
Non, mais c'est important.
Ouais. Absolument.
La crise énergétique.
01 53 48 3000. Le débat continue.
Seulement.
Merci à Emmanuel Dupuis, merci à Pierre-Henri, merci à Mehdi Jaziri, Bilal Lendemann. Qu'est-ce que vous nous annoncez? Bonjour d'abord.
Ah ben bonjour.
Qu'est-ce que vous annoncez comme programme dans 5 minutes?
On va parler de l'euro féminine.
Oui.
Voilà, avec l'équipe de France face à l'Italie.
5-1 face à l'Italie.
Bravo. C'est ça. On va parler aussi de Wimbledon avec Djokovic. Et sans oublier Galtier, nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain.
C'est un vrai show,
Et de l'OM, peut-être.
C'est un vrai show, le Wimbledon.
L'achat de Marseille. Ouais, ça en parle.
L'achat de Marseille,
on sait pas. On sait pas. Monsieur Dupuis, il doit savoir ça.
Il doit savoir ça. Oh, il a des sources qu'on n'a pas. Bilal Lendemann, 20h-21h, avec toute son équipe, débatteurs et débattrices. À demain avec autant de plaisir. Merci à Yanis à la réalisation. On ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'app.